Bien entendu, on l'a déjà dit souvent, le galout de Mitzrayim. Bon, il faudra expliquer pourquoi il y a eu cet exil, en quoi il est différent des autres exils. Et il faudra expliquer que le galout de Mitzrayim, il a une fonction, mais pour nous, on a son rôle dans l'histoire. C'est essentiellement un endroit dont les Bnei Israël vont sortir. Ce qui est important du Galout de Mitzrayim, c'est justement qu'on peut en sortir. Alors, je vais répéter certaines choses pour que monde. Il y a a priori deux naissances du clan Israël. Une naissance avec Abraham Avinu et une naissance à l'époque de Moshe Rabbeinu par la sortie d'Égypte. Alors, formellement, quand on regarde les deux naissances, elles ne sont pas du tout du même ordre. Premièrement, ces deux naissances, elles se produisent par arrachement d'un certain milieu. C'est-à-dire, disons, le peuple juif, il n'a pas été créé comme ça, d'accord? Il s'est créé en s'arrachant à un certain milieu. Et en fait, les deux naissances correspondent à deux arrachements différents. La naissance du clan Israël avec Abraham Avinu, c'est un arrachement d'un monde idolâtre. Donc, c'est-à-dire, c'est une sortie de l'idolâtrie. Alors que, comme tout le monde sait, la sortie d'Égypte, l'arrachement, c'est une sortie de l'esclavage. Donc, c'est intéressant, ce sera intéressant de parler. Pourquoi la première version, en quelque sorte, du peuple juif, c'est un peuple qui se. Il se sort de l'idolâtrie et la deuxième version, c'est un peuple qui se sort de l'esclavage. Alors tout de suite, une parenthèse, c'est que dans la Haggadah de Pessah, on parle de Pessah, Pessah c'est Yetziat Mitzrayim, mais dans la Haggadah, il y a un deuxième récit. Il y a bien le récit Avadim Haïnou le Pharaon de Mitzrayim, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, mais il y a enfin un deuxième récit qui est Mitrila Ovdeh Avodazara Ayu Avotenu. Il y a un récit qui est le récit de l'arrachement d'Abraham, enfin de la sortie d'Abraham Avinu de l'esclavage, de l'idolâtrie, pardon. Donc il y a deux récits après ça dans la Haggadah. Bien que Pessah soit la fête de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire on ne dit pas alors que bien entendu les Bnei Israël en Égypte, on le sait, ils sont idolâtres. Et quand on sort de l'Égypte, ils sont censés sortir de l'idolâtrie aussi. Très certainement, ce qui est frappant, c'est que ces deux arrachements, ces deux sorties en quelque sorte, sont vécues par tout le clan Israël au cours de toutes les générations comme quelque chose qui n'est pas du tout achevé. Nous tous, nous disons tous les matins une bracha pour demander à Hachem de nous aider à nous extraire de l'idolâtrie. On fait la bracha, Shelo Asani, Goy, ou Nochri, ou Obed Kochavim, je ne sais pas comment vous dites, les trois, quoi. Et donc voilà, on demande à Hachem de nous aider à nous arracher. D'accord? Tu ne m'as pas créé comme ça et je te demande Baruch, d'augmenter cette, et de la même, la deuxième bracha, qui nous a sorti de l'esclavage aussi, chez le Hassani Aved, ou Shifra, je veux dire. Et donc, on voit bien que c'est comme si je dis que la naissance du clan Israël, c'est de s'être arraché à, ben on n'a jamais fini de naître. On est sans arrêt en train de continuer de naître. Et a priori, ce n'est pas quelque chose qui finira. La question qu'on peut poser, c'est puisque ce n'est pas fini, pourquoi est-ce que la sortie d'Égypte n'est pas vue comme une sortie de l'idolâtrie? Pourquoi parler de la sortie de l'esclavage alors qu'il faut sortir de quelque chose qui, a priori, peut nous sembler plus important? S'arracher à l'idolâtrie, c'est a priori plus important que de s'arracher à l'esclavage. Personnellement, je pense que l'esclavage, c'est une forme faible d'idolâtrie. Pour dire ça, je m'appuie sur le fait qu'il y a une mitzvah, comme vous savez, une mitzvah de la mitzvah de Riyah, une mitzvah d'Aliyah à la Régel, mitzvah de monter de Yerushalayim au Bet HaMikdash pour voir et être vu par Hachem. Et dans le psukim qui nous parle de cette mitzvah-là, Hachem est présenté comme étant le Adon, comme étant le Seigneur en fait, mais Adon Hachem. Et parce qu'il est présenté comme le Adon, alors la Gemara dans Chagiga, elle dit que quelqu'un qui est esclave, il faut toujours penser, n'est-ce pas, un esclave, en vérité, c'est un juif. Il y a Eved Ivri, qui évidemment c'est un juif, mais même un Eved Knaani, il a les mitzvot, il a les mêmes mitzvot que les femmes, plus la Mila. D'accord? Mais il est Eved, mais il est un juif, c'est-à-dire que si on lui enlève la qualité de Eved, qu'on n'a pas le droit de faire, sauf une bonne raison, mais il est de plein pied, il est juif, quoi. D'accord, tout le monde racontait, Rabbi Eliezer, un jour il est arrivé, à un endroit, il manquait quelqu'un pour le minyan, il avait son esclave, il a libéré l'esclave, et ils étaient lisses avec ça. De plein pied, on n'a pas besoin de le retremper, ni rien du tout, il est juif. Donc, a priori, il est astreint à cette mitzvah, alors on pouvait dire il n'est pas astreint parce que la mitzvah elle est liée au temps, trois fois par an. Mais la Gemara elle dit que la raison pour laquelle lui il n'est pas astreint à cette mitzvah, c'est parce qu'il a un autre Adon que Hachem. Il a un autre maître que Hachem, à savoir son maître dans le couple maître-esclave, lui il a un autre maître. Et donc la mitzvah elle ne s'adresse qu'à ceux qui n'ont pas d'autre maître qu'Hachem. Donc, c'est à ce titre-là qu'il n'est pas tout. Donc, on voit très bien que d'avoir un maître, quelque part, c'est avoir un espèce de concurrent à Hachem. Donc, c'est bien une forme faible, si vous voulez, d'idolâtrie. Vous avez quelqu'un qui a barre sur vous, comme... Qu'est-ce que c'est qu'un idolâtre? C'est quelqu'un qui dit à une statue ou à une puissance quelconque, « Tu es mon Dieu. » Donc, « Tu es mon maître. » L'esclave, il peut dire tous les jours « tu es mon maître », à son maître. Même s'il ne le dit pas, son maître est son maître. Donc, c'est un peu étrange, il faudrait essayer de comprendre. C'est-à-dire, la première naissance du clan Israël, elle s'est faite en s'arrachant à l'idolâtrie, et la deuxième en s'arrachant à, si ce que je dis est juste, en s'arrachant à une forme faible d'idolâtrie qui s'appelle l'esclavage. Donc, la question qui va se poser, la première question, c'est il y a un paradoxe dans le fait que les Bnei Israël étaient esclaves en Égypte, C'est qu'en fait, il y a bien, ils sont bnei Israël au sens où ils sont les enfants de Jacob. C'est écrit dans la parasha qu'on vient de lire pour la première fois. Ils sont appelés bnei Israël. Ils sont bnei Israël. Les gens qui descendent sont les enfants ou les petits-enfants, la famille de Jacob qui s'appelle Israël. Donc, c'est les bnei Israël qui descendent en Égypte. Et la question qui va se poser, c'est pourquoi tout à coup ils vont en exil? On sait très bien qu'il existe un exil pour des peuples, mais un exil pour quelque chose qui n'est pas encore un peuple. Donc, nous sommes le seul peuple qui a été en exil avant d'être un peuple. C'est quoi cette histoire d'être en exil avant d'être un peuple? C'est quoi ce galout? Et en plus, curieusement, on sait très bien qu'il y a dans la trajectoire du clan d'Israël 4 exils. Mitzrayim n'en fait pas partie. Et pourtant, l'Égypte, c'est la mère des exils, si on peut parler comme ça. Mais on verra qu'il faut faire une différence entre l'exil égyptien et les autres exils. Ils ne sont pas les mêmes. Alors, a priori, l'exil, il a été décidé. Lorsque Akadosh Baruch Hu a fait cette fameuse alliance avec Abraham Avinu, qui s'appelle Brit Ben Abtarim, l'alliance entre les morceaux, où il a proposé le fameux deal à Abraham Avinu, il a proposé de choisir entre, pour son peuple, entre la mort et le galout, et l'exil. Traduit par exil, bien qu'on a déjà dit souvent que ce n'est pas vraiment le bon mot, à cause de l'exil grec, mais bon. Galout, le vrai mot, c'est galout. Et Abraham Avinu a choisi le galout. Le galout aussi, c'est une forme faible de mort. Bon, comme on voit très bien dans la halakha. Dans la halakha, on voit bien que quand quelqu'un est tué, ben, il est mérité. Il y a des conditions, mais il mérite la peine de mort. Et s'il a tué par inadvertance, la peine n'est plus une peine de mort, mais une peine de galout. Donc on voit bien que c'est une forme faible de peine de mort, si on peut parler comme ça. Comme on sait, il y a beaucoup de formes de mort. On a dit, il y a l'aveugle, le metzora, le pauvre, tous ces gens-là, c'est des formes de mort différentes. Mais il y a une forme de mort qui est l'exil, le galout. Et donc, Abraham Avinu a choisi, mais la question qui se pose, c'est avant qu'il ne choisisse ça, on lui a proposé de choisir ce qu'on pourrait dire entre la peste et le choléra, quoi, entre choisir entre la mort et le galout. Ilan. Il était connecté avant, alors comment ça se fait qu'il n'y arrive pas maintenant? Au chiot précédent, il était connecté. Il n'est pas dans la. Je ne peux rien faire parce qu'il n'est pas dans la salle d'attente. Dites-lui de se reconnecter. Qu'il se reconnecte. Je vais voir s'il arrive sur. Quelqu'un verra, ou une meilleure ou moi, on verra s'il est dans la salle d'attente. Pour l'instant, il n'y a pas personne dans la salle d'attente. Et donc, la question qui se pose, c'est effectivement pourquoi ce choix-là? Pourquoi, pour que le peuple devienne un peuple qui dure jusqu'à la fin des temps, pourquoi fallait-il qu'il passe par un galout? Jusqu'à présent, les galouillottes, jusqu'à présent, les galouillottes étaient toujours des galouillotes causées par une faute, par des fautes. Toujours une mauvaise conduite d'Ibn Israël qui a entraîné le galout. Il n'y a pas, on ne peut pas parler d'une mauvaise faute, enfin d'une faute. Deux, la vérité, c'est que l'Agmara, elle va dire, elle va poser la question, et l'Agmara va donner trois raisons, trois fautes d'Abraham Avinu, qu'on présente comme les fautes pour lesquelles, à cause desquelles il y a eu ce galout. Alors, on va retraiter la chose, mais je vous dis tout de suite, pour que ce soit clair, le Maharal de Prague dit qu'en réalité, il était nécessaire qu'il y ait un galout, pour des raisons qu'on va expliquer plus tard. Mais il ne peut pas y avoir de galout sans qu'il y ait justement la cause de ce galout. Donc, on a cherché quasiment des poux dans la tenture d'Avraham Avinu et on lui a trouvé trois fautes, dit le Maharal. Bon, mais c'est pour nous rassurer. Voilà, bon, il y a un galout et il y avait des fautes qui ont entraîné un galout. Mais le galout, il n'est pas du tout à cause. La vérité, le galout n'est pas à cause de ces fautes-là. On verra plus tard pourquoi il y a eu galout. Pourquoi il fallait qu'il y ait galout. Et quel est le rôle de ce galout? Pourquoi le galout, une fois qu'on a... Voilà, il doit y avoir un galout, mais il n'est jamais précisé... Bonsoir, Ilan. Il n'est jamais précisé où et quand le galout devait avoir lieu. C'est tout. Il y aura un galout pour tes enfants, tes descendants. Mais où et quand, ce n'est pas précisé. Alors, en fait, le galout, il a, comme tout le monde sait, il a eu lieu en Mitzrayim, c'est-à-dire un endroit qui était une grande civilisation, mais un makom, un lieu extrêmement pourri, quoi. Les mœurs étaient vraiment très dégénérées. Mais une très grande civilisation. Pourquoi il a lieu en Égypte? Ça, c'est à cause de la dispute entre Yosef et ses frères. D'une certaine manière, les frères ont envoyé Yosef en galoute. Et ils l'ont envoyé en galoute en Égypte. Ils l'ont vendu comme esclave en galoute en Égypte. Donc, si vous voulez, Yosef a vécu dans sa chair ce que le clan Israël va vivre par la suite. Et donc, quelque part, ça a entraîné toute la famille de Yaakov et ensuite tous leurs descendants. Puis, il y a eu une explosion démographique dans la famille de Yaakov. Au départ, ils sont 70. Et après, ils sont un nombre incroyable. Donc voilà, c'est la dispute entre Yaakov et Yehuda. Enfin, Yehuda, c'est le porte-parole de tous les frères. Cette dispute entre Yosef et Yehuda, finalement, c'est une dispute qui a donc, on vient d'en parler tous les derniers Shabbatot où on a lu toutes ces disputes. Bon, là-dessus, il y a beaucoup de questions, mais ce n'est pas directement notre sujet. Et à la fin, il y a, semble-t-il, une forme de réconciliation entre Yehuda et Yosef. Dans la Haftara qu'on a lue Shabbat dernier, on parle justement de cette réconciliation, mais cette réconciliation à la fin des temps. Les deux, Yehuda et Yosef, sont à l'origine de deux Meshichim. Il y a un Mashiach ben Yosef et un Mashiach ben Yehuda, qu'on n'appelle pas ben Yehuda mais ben David.
Merci.
En fait, le clan Israël, à la fin des temps, il n'aura réussi que si les deux Meshichim travaillent ensemble. Alors, c'est un peu compliqué parce que celui qui parle du Mashiach ben Yosef, c'est l'Arizal, kabbaliste, l'Arizal, et lui il dit que le Mashiach ben Yosef il va être tué, c'est ce que Rashi dit, c'est ce que dit la Gemara en Souka, mais d'un autre côté, il faut prier pour qu'il ne soit pas tué. C'est le Mashiach ben Yosef. Donc, c'est de nouveau une espèce de Mashiach bicéphale. Le vrai Mashiach, le Mashiach, le roi, etc., ce sera bien sûr le Mashiach ben David. Mais la Meshichut, le fait que le descendant de Yosef est aussi un Mashiach, aussi quelqu'un d'ouin qui joue un rôle absolument fondamental, est absolument nécessaire pour. On l'a devenu du Mashiach ben David. Et donc, c'est très important, comme très souvent, que ce qui doit advenir existe déjà sous une forme faible, une forme restreinte, etc., concrètement dans la Mazée. Et donc, cette naissance, cette réconciliation-là, elle préfigure la réconciliation ultime entre Yehuda et Yosef. On avait dit déjà en son temps que quand Yaakov a envoyé Yosef prendre des nouvelles de ses frères dans le fameux Emek Hebron, bon, qui n'existe pas, mais qui est qui référence à Avraham Avinu, qui est en, à la profondeur, la Hamkout de la Hetsa d'Avraham Avinu, qui est enterré à Hebron. Et là-bas, comme on dit, on avait dit, c'est incompréhensible, il l'envoie inutilement au casse-pipe. Ça n'a pas manqué. D'accord, les frères ont bien essayé de le tuer. Ensuite, ils l'ont bien condamné à mort. Et ensuite, ils ont commué la peine, une peine d'exil, de galoute, en pensant que bon, tous les rêves ne se réaliseront pas, puisqu'il ne s'en sortira jamais. Donc, Hachem a montré que c'était lui le maître et qu'il s'en est sorti. Donc maintenant, on a un galout en Égypte. On est en Égypte par la faute de cette dispute entre Yosef et Yehuda. On peut dire, si on veut vraiment aller chercher des causes, au lieu de dire que c'est une faute, alors on peut comme remonter jusqu'à Abraham, dire que c'est les fautes dues à Abraham Abinou. Mais concrètement, pourquoi c'est en Égypte? On peut dire que c'est la faute de Yaakov. Yaakov, avec son truc de privilégier ostensiblement Yosef, il a contribué à la haine des frères contre Yosef et donc a entraîné ce dont on vient de parler, quoi. Quelque part, comme dit la Mishnah, pour quelques grammes de soie que Yaakov a donné en plus à Yosef, c'est une erreur tellement fondamentale de privilégier ostensiblement un enfant parmi les autres, on ne comprend même pas comment on peut faire une erreur pareille. visiblement, il faut dire ici, ça fait partie de... que là-dessus, ils sont manipulés par Hachem, c'est le projet d'Hachem qui manipule, parce que c'est nécessaire. On reviendra sur ce point-là. Il y a donc deux naissances. Cette histoire du deux, on en avait parlé déjà. Par exemple, dans la Gemara, quand une Gemara donne, quand quelqu'un donne deux réponses à une question. Donc la question qui, enfin, il se pose toujours la question, c'est pourquoi en donner deux? Si une est bonne, je n'ai pas besoin d'une autre réponse. Et si elle n'est pas bonne, pourquoi on la ramène? Alors, j'avais dit que, il me semble, les exemples que j'ai en tête, en fait, c'est que la première réponse est toujours la réponse la plus intéressante, la plus ridouchique, si on peut parler comme ça. Seulement, c'est souvent une réponse sur laquelle, si on commence à pinailler un peu, alors elle ne tient pas complètement, mais dans l'idée, c'est elle la grande réponse. Maintenant, si tu me dis oui, mais ça ne tient pas, ok, je vais te donner une deuxième réponse qui est un coup de marteau, carré, il n'y a rien à dire, mais ce n'est pas toujours très intéressant. Et donc, est-ce qu'on peut appliquer ce raisonnement-là aux deux naissances du clan Israël? De toute façon, on peut se poser la question. C'est quoi cette idée d'avoir deux naissances? Est-ce que la première était la bonne? Et comme ça n'a pas marché, on va voir pourquoi ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, alors il a fallu en faire une deuxième. Ou bien est-ce que la première, c'était un brouillon pour la deuxième? Pourquoi j'ai besoin de faire des brouillons? Ou bien peut-être que la première était un commencement pour la deuxième. Pourquoi il fallait commencer d'une certaine manière et continuer d'une autre manière. Les deux naissances, elles donnent naissance à un peuple. Mettons de côté le fait que dans la première naissance, le peuple, c'est quelques personnes. Mais ils ont 70 quand ils descendent en Égypte. Ça commence à foire après. Alors que l'autre naissance, c'est à nous. Mais bon, la grande, grande différence, c'est le rapport à la Torah. Dans la première naissance, la Torah n'a pas été donnée. La Torah, dans la première naissance, elle a été trouvée par Abraham Avinu, puis ensuite par Yitzhak, par Yaakov, par inspiration, donnée au Shiur de Chumash la semaine dernière, le Maharal Gourarié qui expliquait effectivement toutes ces différences, quoi. Et donc la question qui se pose évidemment, c'est qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est supérieur, pratiquer une Torah qu'on a trouvée par soi-même ou de pratiquer la Torah qui a été donnée, imposée de l'extérieur? Théonomie, donc c'est quoi la bonne ou la meilleure solution? Est-ce que la spontanéité, l'autonomie, bon, ça donne un avantage à la Torah trouvée par soi-même? Ou est-ce que la grande difficulté qu'il y a dans la deuxième, c'est de vaincre la tentation de la désobéissance. Quand on t'impose quelque chose, automatiquement, il y a un Yetzirah qui vient et qui te dit il ne faut pas accepter. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Vous pensez?
Il y a aussi une sorte de transmission presque obligatoire.
Oui, alors le problème, c'est justement. D'Abraham Avinu, on dit qu'il a été Mekayem toute la Torah. Toute la Torah. Mais des autres, ils n'ont pas été Mekayem obligatoirement toute la Torah. Et en particulier, Yaakov ou Amram avec Yocheved, donc le père de Moshe Rabbeinu, n'ont pas été Mekayem toute la Torah. Non, ben on avait vu ensemble avec ce que Maharal disait là-dessus. Donc, en fait, vous avez raison, il y a de la transmission, mais on n'est pas obligé de faire la transmission. La transmission aussi, la qualification d'Abraham Avinu, ça a été d'être un transmetteur. Hachem dit, Abraham, je sais qu'il va transmettre les valeurs. Et c'est comme ça, c'est pour ça que je l'aime en quelque sorte. Parce qu'il va transmettre. Okay. Mais bon, la transmission, mais pas complète, etc. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. La remarque que j'avais faite, je crois, Yoshio, je n'ai pas dit, je vais le dire, c'est que on avait vu une dracha sur un pasouk dans le troisième paragraphe du Shema. Un pasouk, c'est marqué sur les mitzvot, va citer motam. Vous les ferez, les mitzvot. Asitem, otam. Vous les ferez. Or, le mot otam, il est écrit chaser. C'est-à-dire, au lieu d'être écrit alev vav tav mem, il est écrit alev tav mem. Et alev tav mem, si vous le donnez, mettez ça sous le nez d'un enfant qui a appris à lire, il va lire comment? Il va lire atem. Atem, ça veut dire vous.
Oui,
mais avant,
Otam.
Quoi? Il a écrit manquant. C'est-à-dire sans le vav. Effectif. Oh, il y a une dracha là-dessus. Vous vous souvenez? La dracha, elle est incroyable. La dracha, elle dit. Akadosh Baruch Hu dit, si vous faites les mitzvot que je vous ai donné à faire, je considérerai que c'est comme si vous vous étiez fait vous-même, que vous aviez par vous-même trouvé les mitzvot qu'il fallait faire, et vous les avez faits. Donc on voit que Hachem donne comme récompense, si on fait les mitzvot, ben ce sera comme si vous les aviez inventés vous-même, c'est comme si vous les aviez trouvés par vous-même. Comme si, ok, on a les deux en tout cas. Si on fait les mitzvot telles qu'elles ont été données, on aura les deux. C'est-à-dire, on aura obéi, donc on a vaincu le Yetzara de la désobéissance, d'un côté, et d'un autre côté, on aura le même mérite que si on avait trouvé par nous-mêmes les mitzvot. Quand on dit qu'ils l'ont trouvé les mitzvot par eux-mêmes, bon, c'est Maharal, il dit, c'est une inspiration, mais elle vient d'où cette inspiration, ma pitom, pourquoi ils ont trouvé ça plutôt qu'autre chose? C'est que ce qui se passe, le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu dans le Zohar, ailleurs, on dit Istakel Beoraita ou Bara Alma. Il a regardé la Torah qu'il avait créée il y a longtemps, on peut parler comme ça de longtemps, et il a, en s'inspirant de la Torah, ou à partir de la Torah, il a créé le monde. Donc, dans la mesure où la Torah est le plan du monde, elle est aussi le plan de chacun d'entre les créatures. Donc, en particulier, c'est notre plan personnel. Donc, si on creuse, si on veut, si on arrive à notre squelette spirituel, eh bien, c'est la Torah. Donc, c'est logique qu'on puisse trouver en soi les mitzvot de la Torah, parce que ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. C'est au fond quelque chose qui est en nous. Et de toute manière, toute l'étude de la Torah consiste à faire entrer en nous, c'est marqué, « Miyadata ayom » et tu sauras aujourd'hui, « Vachevota el levavetra » et tu ramèneras ça dans ton cœur, « Ki Hashem, Kakosh Boku, c'est lui le maître du monde, il n'y a rien d'autre. C'est lui le maître du monde. » D'accord? Donc, il faut intérioriser ce savoir-là que c'est Hachem le maître du monde et que la Torah est l'expression de la volonté d'Hachem. Oui? Pardon?
Le monde, que selon notre pensée, après on va agir, on la fera, ou on fait des actes pour, parce que c'est la pensée qui va se transformer en acte, c'est les actes qui vont se transformer en pensée.
Bien compris. J'ai entendu, mais je n'ai pas compris.
Quand on n'a pas la Torah, est-ce que ce n'est pas une autre manière de comprendre le monde qu'on va essayer de mettre en pensée? Qu'on va essayer de mettre en pratique, c'est notre pensée qu'on va mettre en pratique.
Mais c'est pas, ça veut dire pensée. D'où elle vient cette pensée? Comment se fait-il que cette pensée.
Elle est en adéquation avec le monde.
Pardon?
Elle est en adéquation.
Évidemment, avec... puisque tout le monde a été créé sur le même modèle. C'est ce qu'on a dit, c'est puisque le monde n'est rien d'autre que une des réalisations, une des concrétisations du modèle qui est Torah. Ça s'appelle, selon les lois qu'on appelle les lois de la nature, c'est aussi des lois qu'Hachem a fixées. Et puis, il y a un autre ensemble de lois qui sont les lois de la Torah, qui ne sont pas les mêmes lois.
Peut-être ce qu'il veut dire, c'est que si c'est une Torah intuitive, c'est-à-dire, ce n'est pas le bon mot, mais une Torah qu'on perçoit, ne parlons pas de comment, pourquoi on perçoit, mais elle est le fruit de ce qu'on nous, on pense. Donc, on va penser et puis faire.
Le problème.
Il renverse le Naaseh Benishma, c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que là, d'un côté, on penserait et on ferait, et de l'autre, il y a une médiation à travers la Torah qui fait qu'on ferait et on réapprend.
Pourquoi d'avoir fait, ça nous aiderait à comprendre?
C'est la contrainte qui est pas la même.
Non, mais pourquoi ça m'aiderait à comprendre? Je fais les choses.
Dis-moi l'autre, pourquoi on fait des choses qu'on ne comprend pas?
Parce qu'en fait, quelque part en nous, quelque chose en nous comprend ces choses et nous incite à les faire.
C'est pas qu'on comprend, moi je pense que c'est pas à ce niveau-là, c'est plutôt. C'est-à-dire, c'est plutôt une confiance, que ce soit en son père ou un maître. Ou alors, ça peut être une compréhension peut-être de l'ordre du sensible ou d'âme, peut-être, oui.
Abraham Avinu, nous, sa façon de comprendre les choses, c'est comparé à un filtre, en fait, qu'il était capable de filtrer. Ça veut dire. Il y a un passage qui dit Rabot marchavot belevish, vatsat Hashem hitakum. C'est-à-dire, quand tu réfléchis sur un problème, il te vient un flot, littéralement, d'idées. Ça va tellement vite que c'est presque impossible de dire quelle était la première idée que j'ai eue sur ce sujet, parce que souvent, regarde, je ne sais pas ça. Donc, il y a une espèce de. Et donc, le problème, c'est pourquoi on en garde une de ces idées ou on en garde deux, tu vois. C'est un filtrage. Alors, premièrement, ce que ce texte, ce verset nous dit, c'est que dans l'ensemble des idées qui me viennent quand je pense, il y a l'idée qui est Atzat Hashem, qui est ce qu'Hashem veut. Atzat Hashem fait partie, d'accord? Si ce n'était pas dedans, on ne pourrait pas le trouver. Donc, c'est dans un, mais c'est dans un flot, et il faut arriver à filtrer pour faire sortir ça. Alors, l'image qui est prise, c'est les reins. Le rein est un filtre. Donc, on dit que les clayotes d'Avraham Avinu filtraient, justement, quand ils pensaient Torah. Pourquoi? Parce que ça filtrait les choses. Par exemple, il y a des gens qui, quand ils parlent, par exemple, ils parlent toujours avec un langage qui est en fait le langage de la Torah. Vous savez, comme ça, c'est des gens qui ils parlent avec presque tout le temps des livres Torah, quoi. C'est dans ce qu'ils racontent, c'est toujours. Et dans les idées, mon maître aussi, quand il réfléchissait, c'était des pensées de Torah, quoi. Donc, c'est comme ça que ça venait. C'est pas une inspiration vraiment extérieure. Elle vient de l'intérieur. Parce que nous sommes créés de cette manière-là. Sinon, il n'y a pas de raison qu'on pense. La question qui se pose toujours, c'est tu penses, mais d'où tu penses, en fait? En 68, on disait aux gens d'où tu parles, camarade. Mais on peut aussi lui dire, mais d'où tu penses? À partir d'où tu penses? C'est pas lui qui a dit. C'est pas lui qui a dit sur lui-même, j'ai bien pensé. Il a naturellement pensé, et il se trouve que la Torah dit que ce qu'il pensait, c'était vraiment conforme à la Torah. Mais il n'y a que sur lui qu'on dit qu'il a fait toute la Torah. Les autres, ils ont fait des choses qui étaient plus proches d'eux, mais il y a d'autres choses qu'ils n'ont pas faites. Parce qu'ils pensaient autrement, ils pensaient que... Et ça, c'est toujours un grand problème. Nous, aujourd'hui, à cause de la contrainte de la Torah, si aujourd'hui, moi, je pense que ce serait bien ou bien quelqu'un pense... Ben, ce serait très bien que j'épouse ma sœur. D'accord, très bien. Bon, ben, ça ne marche pas, tu ne peux pas. Même si à supposer que tu as un raisonnement en béton armé pour dire que c'est formidable parce qu'on va vraiment transmettre tout ce qu'on a reçu de nos parents, on va transmettre, etc. Bon, ce n'est pas possible. Point barre, terminé. Ça ne marche pas. Eux, ils pouvaient, Yaakov Avinu, il a pensé qu'il avait besoin, donc quelque part, celui qui a donné la Torah, ça veut dire, il y a dans la Torah, dans le plan du monde, il y avait une nécessité à un certain moment de produire les 12 tribus, et il y avait une nécessité que les 12 tribus proviennent, en fait, de 4, mais disons de 2 femmes. C'était comme ça. Et donc, lui, il a compris que c'était quelque chose d'absolument nécessaire. Et que même si effectivement ça contredit ce qui va être donné comme Torah, mais à ce moment-là, pour lui, dans la situation où il était, c'était ça la Torah, en fait. C'était ça qu'il fallait faire. Bien que ce ne soit pas conforme à la Torah. Mais maintenant, je vous ai dit au chiot que le Maharal pose la question. Vous savez, à la fin des temps, marqué qu'il y aura une grande Seouda. Tout le monde participera, Yatan, etc. Et c'est marqué qu'on a donné à Yaakov Avinu le Zimoun. Tu prends le verre et c'est toi qui vas, donc tu vas, c'est toi qui vas faire Birkat Hamazon pour tout le monde, quoi. C'est ça que le Birkat Hamazon avec Zimoun avant, du temps de la Gemara, c'était comme ça. Il y en avait un qui faisait et tout le monde écoutait et disait Amen. Alors on a dit à Yaakov Avinu, c'est toi. Et Jacob Avinu a dit, non, je ne peux pas, moi, parce que j'ai épousé le sœur. C'était complètement net. C'est marqué qu'il n'avait aucun défaut, Jacob Avinu. Ce n'est pas un défaut. Il n'y a pas un défaut. Mais à la fin des temps, puisque la Torah va dire que ça, ce n'est pas bien, d'épouser le sœur, quelque part, il y a quelque chose de suffisamment négatif pour que Yaakov Avinu lui-même puisse dire « Je ne peux pas. Je ne peux pas, hein, moi, représenter tout le monde, étant donné que… » Alors, les autres, chacun va dire « Moi, je ne peux pas parce que moi, j'ai fait ça. » Mais sur Yaakov Avinu, il m'intéresse. Yaakov Avinu dit « Moi, je ne peux pas parce que j'ai épousé le sœur. » Alors que c'est sûr qu'il fallait qu'il épouse le sœur. C'est nécessaire pour l'existence du clan Israël. C'est nécessaire. Vous dire qu'en vérité, quelqu'un qui, un Yaakov Avinu qui aurait reçu la Torah et qui comprend qu'il faut qu'il épouse deux sœurs, s'il faisait le raisonnement de dire ben, il faut bien que le clan Israël a besoin de 12 tribus et il faut deux femmes pour être les mères, etc. Donc je vais le faire. S'il la verra, il n'a pas le droit de le faire. Et cette chose-là, un instant, cette chose-là, c'est l'erreur d'Aaron à Cohen. Quand Aaron a fait faire le veau d'or, pourquoi il a fait faire le veau d'or? Parce qu'il a dit, c'est écrit dans Echa, que le premier Beth Amigdash a été tué, le clan Israël a été détruit, pardon, le clan Israël s'est disqualifié parce qu'ils ont tué Cohen Venavi. Ils ont tué le grand prêtre, le Navi, et ils ont tué le Navi Eshaya aussi. Et donc, c'est présenté comme la cause de la destruction du Beth Amikdash. Alors, Aaron, il a fait le même raisonnement. Il a dit, mais moi, je suis Cohen et Navi. Il n'y a pas l'autre Cohen, enfin, il n'y avait pas de Cohenim à ce moment-là, il y a ses enfants. Et je vois bien qu'ils vont me tuer parce qu'ils ont tué Hur. Donc, ils vont me tuer aussi.
Parce qu'ils ont tué
Hur, le fils de Myriam. Quand ils ont voulu faire le veau d'or, le fils de Myriam s'est opposé. Ils l'ont tué. Alors Aaron savait que s'il s'oppose, ils vont le tuer. Bon, alors bon, il va mourir alors qu'il nous cherchait. Mais lui, il a dit, mais moi, s'il me tue, moi, c'est Cohen et Navi qu'ils auront tué. Tuer Cohen et Navi, ça veut dire tuer la Avoda et tuer la parole d'Hachem. Adressé aux hommes. Donc le clan Israël n'a plus de raison d'exister. Et donc à ce moment-là, il était disqualifié aussi à la fin, au premier Beth Amikdash. Seulement la colère d'Hachem, elle est tombée à la Hitzim Valavani. Il y avait le Beth Amikdash, et la colère d'Hachem, au lieu de tomber sur les Bnei Israël, elle est tombée sur le Beth Amikdash, elle a détruit le Beth Amikdash. Seulement au temps d'Aaron, il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc il dit, Aaron s'est dit, si il me tue, ils sont perdus. Il n'y a plus de clan Israël. Ils n'ont plus de raison d'être, donc ils vont être détruits. Il n'y a pas de paratonnerre. Le Beth Amikdash a joué le rôle du paratonnerre à son temps, le premier Beth Amikdash. La foudre est tombée sur lui au lieu de tomber sur les Bnei Israël. Et là, il n'y a pas de paratonnerre, donc le clan Israël va être détruit. Donc, il vaut mieux qu'il fasse une très grosse avéra plutôt que d'être détruit. C'est ce que Moshe lui a dit, mais ce n'est pas ton problème. Le problème des hommes, ce n'est pas d'assurer que le monde d'Hachem va survivre. C'est ce que Yeshayahu a dit à Hizkiyahu. Hizkiyahu a dit, mais Yeshayahu, il a dit à Hizkiyahu, tu vas mourir. Hizkiyahu a dit, c'était son cousin, il lui a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu ne t'es pas marié. Donc, tu n'as pas été au sein du Kiryat Verivia. Tu n'as pas fait la mitzvah de Kiryat Verivia. Hizkiyahu a dit, mais je ne l'ai pas faite parce que j'ai vu que les enfants que tu es susceptible d'avoir, ce sera de terribles idolâtres. J'ai préféré ne pas avoir d'enfants que de mettre au monde des idolâtres de super dimension. Et Hizkiyahu l'a dit, c'est des cheshbonot d'Hachem, ça, c'est pas les tiens. Ah, il va y avoir des. Ça, c'est le problème d'Hachem. Si Hachem veut pas, il veut pas des gens, des idolâtres dans son monde, qu'il se débrouille pour que ces gens-là ne naissent pas. C'est pas ton problème. Donc, ça, c'est la même faute, la même erreur en quelque sorte. Il y a quelque chose. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, Avraham Avinu a fait les choses parfaitement. Après, c'était un peu moins parfait. Cette première version du clan Israël, est-ce qu'elle était la meilleure? Mais où est passé le problème de l'idolâtrie? Dans la Torah, on ne voit pas qu'ils soient sortis d'Égypte en s'étant débarrassés de l'idolâtrie. D'abord, ce n'est pas vrai du tout, ils sont sortis idolâtres. Comment se fait-il qu'on fasse tout un plat de ce qu'ils sont sortis libres, non esclaves, disons, alors qu'ils sont sortis idolâtres? Tellement idolâtres que les malachim, au passage de la mer, les malachim, ils ne voient pas la différence. Ils disent à Hachem, comment tu sauves ceux-là et tu noies les autres? Ceux-là idolâtres, ceux-là idolâtres. Kif, kif. Et donc, le grand problème, c'est, mon grand problème, si vous voulez, c'est, je ne comprends pas vraiment pourquoi on se glorifie d'être sorti du pays de. Hachem nous a sorti du pays de l'esclavage, alors que bon, finalement, on n'est pas vraiment. On est sorti d'un pays idolâtre, mais on est vraiment. Quand on est sorti, on n'était plus idolâtre, on n'était plus esclave. On est sorti d'Égypte, mais on était toujours idolâtre.
Seule chance peut-être de lutter contre l'idolâtrie, c'est de recevoir la Torah pour que d'une certaine façon, le travail de la vie, c'est-à-dire de recevoir la parole d'Hachem, c'est plutôt par l'étude et par les rachamim que ça va se faire et que ça peut se diffuser au sein du peuple.
Mais qu'est-ce qu'il y a avec l'idolâtrie alors?
Ben, c'est peut-être le seul moyen de lutter contre l'idolâtrie à l'échelle d'un peuple. Parce qu'en fait, il faut bien essayer de retrouver à l'échelle d'un peuple ce qui n'est plus possible et ce qu'on a perdu.
C'est possible que, en fait, c'est évident que, comme Chazal disent, celui qui est modé Batora, il est kofer b'Avodazara, et celui qui est modé b'Avodazara, il est kofer Batora. Donc le problème, c'était comment, quand on accepte la Torah, c'est une façon de laisser tomber l'idolâtrie. Alors, on a vu que ça ne marchait pas vraiment complètement. Mais ça voulait dire qu'ils n'avaient pas vraiment complètement accepté la Torah.
Mais même quand ils ont complètement accepté, ça ne marchera pas non plus.
Oui, mais.
Excusez-moi, Rav, je vois pas vraiment, je me creuse les méninges là, mais. Je ne vois pas comment on peut faire on peut suivre les deux options, c'est-à-dire soit vous dites voilà, la première réponse c'est la bonne, on laisse à l'homme, ça me paraît très idéaliste et utopique, à l'homme la possibilité de trouver la voie, qui serait la voie de la Torah, avec des modèles, certes peut-être imparfaits, mais Avraham, Yitzhak, Yaakov, soit comme vous le dites vous-même en commentant la paracha Joseph, je veux dire ici, il y a un plan évident divin que ici, bon, Joseph doit être vendu par ses frères pour faire en fait de ce peuple, enfin de cette famille de 70, un peuple même idolâtre, mais qui va collectivement ensuite recevoir recevoir la Torah. Je vois pas comment, à moins de devenir fou et schizophrène, on peut faire marcher ensemble les deux options. Parce que là, ça devient sur un plan mental et cognitif impossible. On a parlé aussi, vous aviez parlé à l'époque de Adam, et vous aviez dit bon, s'il n'avait pas, c'était juste la veille de Shabbat, bon, bah, s'il n'avait pas fait la faute, eh ben c'était terminé, c'était réglé. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça le plan divin? Je ne le sens pas comme ça. Je sens comme effectivement une obligation de passer par certaines expériences et certaines mauvaises expériences pour faire, je l'espère, avancer les choses dans la direction qui est souhaitée par Hachem.
Vous voyez, il y a souvenez, je vous ai parlé à Hanouka du fait que dans Ananissim, on dit Ve'ata berachamecha harabim, et toi, par ton rachamim multiple. Et on s'était demandé, c'est quoi la différence entre rachamim et rachamim rabim? Rachamim, c'est la, moi je traduis par tendresse, je traduis par miséricorde. C'est quelque chose, il y en a qui disent matriciel. Parce que le rechem, c'est la matrice. Mais c'est l'idée de la tendresse de la mère pour son enfant, quoi. C'est le fruit de mes entrailles. Bien qu'en fait, on avait déjà dit ça aussi, que on parle jamais de, on dit jamais que Rachem aime Albanéa. On dit toujours que Rachem aime Albanim. De la même manière qu'un père a du Rachem, de la Rachamim pour ses enfants. Et donc, ça veut dire que lui, il a Rachamim qui n'est pas l'attachement naturel d'une mère au fruit de ses entrailles. Donc pour moi, c'est simplement que le rachamim dont on parle quand on parle du père, c'est un rachamim construit, alors que d'une certaine manière, le rachamim éventuel de la mère, il est un peu inné, quoi. C'est quelque part c'est pas une construction complète. Comme je dis toujours que ce qui est important, c'est le construit plutôt que l'inné. L'inné, on n'y est pas pour grand-chose. Bon, alors, je vous ai dit que le rachamim, la différence, le rachamim rabim, c'est le rachamim qu'Hachem a donné après le veau d'or. Enfin, Hachem a pardonné. Il a dit à Moshe Rabbeinu, il m'a dit, quand le clan Israël va fauter, voilà ce que tu vas faire. Et il lui a montré un shiar tzibur, un talit sur la tête, qui récite les shlosh esrei midot. Hachem, Hachem, Kel, Rafum, Vekranoun, etc. Et Hachem a dit, vous ferez comme ça et moi je pardonnerai. C'est un peu paradoxal. On est un peu gêné parce que ça ressemble un peu à la prière. Mais bon. C'est comme ça. C'est pour ça qu'à Kippour, en fait, toute la tfila, à part la tfila normale de Yamim Tovim, tout le reste du temps, on n'arrête pas de répéter les Shloshes Remidot. Comme c'est barbant de dire les Shloshes Remidot sèchement, alors on a mis des magnifiques poèmes autour, comme introduction, comme explication, comme élargissement, etc. Et ça prend aussi plus de temps, quelque part. Voilà, c'est. Mais en fait, le contenu spécifiquement Yom Kippour, c'est ça. Or, dans ces Shloshes Remidot, ça commence par Hachem, Hachem, deux fois le nom d'Hachem. Et là, le Chazal, sur ce doublement du Shem Hachem, il dit c'est le premier Hachem, c'est avant la faute, et le deuxième, c'est après la faute. C'est-à-dire, étant donné que le Shem Hachem, ce nom divin, c'est ce qui fait exister toute chose. C'est comme on dit, Aya, Ove, Viye, ou Mehave, et Akol. Il fait exister les choses. Le premier nom divin, il faisait exister les choses jusqu'à la faute. On a fait la faute, ce nom divin, c'est ce qu'Hachem a dit, je vais le détruire, je continue. Quand Moshe Rabbeinu est intervenu, il a intercédé pour le clan d'Israël, Hachem a donné, Hachem a cédé, et il a donné un deuxième nom divin, qui lui est un nom divin d'après la faute, c'est-à-dire un nom divin qui fait exister même au-delà de la faute. Donc vous voyez, c'est le même nom, c'est exactement le même nom, sauf que c'est dans cet exemplaire, si on peut parler comme ça, d'après la Drasha de Chazal, je ne sais pas, tout seul on n'aurait jamais pu dire une chose pareille, mais d'après la Drasha de Chazal, ça veut dire que ce nom divin-là, il fait exister même après la faute.
Pourquoi c'est le même?
Parce qu'il n'y a pas, il y en a pas 36, il n'y a qu'un seul nom divin à ce niveau-là. Il y a pas de... C'est le même, simplement, il l'a donné... Il émeuvait quand Hachem a créé le monde avec ce nom-là. Et puis ensuite, il a fallu une rallonge. Quoi. Quelque part, le monde d'après la faute, ce n'est plus le même monde. Et donc ça, je voulais rapporter ça comme réponse à ce qui avait été dit. Il est vrai que la première mouture, si on peut parler comme ça, mais avec Avraham Avinu, c'est une mouture dans laquelle, effectivement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ça a été... il y a eu donc les trois patriarches, Yosef, et les Yosef, Yehuda et les autres tribus. Et puis, c'est monté jusqu'à 70, y compris Yochevet qui est né dans les murailles au moment de la descente. Ils sont 70 quand ils arrivent en Égypte. Et puis, ce n'est pas immédiat, mais peu de temps après, il va y avoir le commencement du galout. En fait, ce problème le début du commencement du galout, c'est un grand problème sur lequel il faudra qu'on discute. Quand est-ce qu'on considère que le galout a commencé? En page toute, on dit que ça a commencé après, quand le dernier des frères est mort. Quand le dernier des frères de Yosef, Yosef est le premier à être mort, d'accord, il est mort en premier, et aussi parce qu'il avait dit du mal de ses frères, etc., à son père, et aussi parce qu'il a laissé dire sur son père « Avdecha Abi ». Quand Yehuda parlait, qu'il ne savait pas à qui il parlait, il disait « Ton serviteur, notre père ». Et Yosef, il entendait ça et il n'a pas bronché. Il a laissé dire sur son père qu'il était son serviteur. Quelque part, tout ça, ça se paye. Yosef l'a payé aussi. Et donc, quand le dernier des frères est mort, il y avait, du coup, le roi, il a décidé que, voilà, ils sont morts, on peut tranquillement oublier Yosef. Yosef, je ne connais pas, pas du tout, je ne connais pas. Et donc, voilà, il a fait comme s'il ne connaissait pas du tout Yosef. Bon, que ce soit la même dynastie ou une autre dynastie, peu importe, les traces de l'économie égyptienne version Yosef, elle était encore là. marqué à Dayomazé. Yosef, il a fait quelque chose de absolument incompréhensible. Bon, si vous voulez, c'est totalement scandaleux ce qu'il a fait, parce que il a réduit tous les Égyptiens à la condition d'esclaves. Bon, ce qui est écrit à la fin de la paracha qu'on a lu, c'est quoi? Ils sont venus chez Yosef, les Égyptiens, ils ont dit, on n'a plus rien à manger, on a tout vendu, on a vendu nos terres, on a vendu nos animaux, etc. Ben, tout ce qu'on peut faire, c'est se vendre nous-mêmes. Prends-nous comme esclaves, esclaves de Paro. Et donc, toute l'Égypte est formée, en vérité, de Paro et les esclaves. Donc, quand les Juifs viennent, ils sont aussi des esclaves. Les Juifs, ils n'ont pas, quand on regarde la chose de cette manière-là, ben, les Juifs qui arrivent, enfin, je dis les Juifs, c'est les Hébreux, bien sûr, les Hébreux qui arrivent là-bas, ils n'ont pas un statut différent. Quand on les met en... Eux, ils ont été réduits en esclavage parce qu'ils étaient du côté des privilégiés qui n'avaient pas été... qui avaient eu à manger, qui n'avaient pas besoin de se vendre. Tous les autres, ils ont eu besoin de se vendre. Et donc, c'est un scandale. Il a fait de Paro l'autocrate qu'il va devenir. D'accord? Il va devenir un cinglé alors que tout le peuple va souffrir des macottes. Et ce Paro-là, il va dire non, 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 ne cède pas. Tous les Khartoumim vont lui dire tu dois céder. Tous les sages lui disent il faut céder. Non, il ne cède pas. Super autocrate. Et les autres, c'est des esclaves. Alors, probablement qu'ils sont tous devenus plus ou moins métayers de Paro, évidemment. Ils ont travaillé parce qu'il fallait bien, il fallait bien récolter, ou bien il fallait travailler quand même dans les champs et tout. Même dans les années de famine, il y avait quand même pendant toutes sortes de choses à faire. Et donc, ils ont travaillé pour Paro. Bon, ce n'est même pas très clair jusqu'à... Je ne connais pas l'histoire égyptienne. Combien de temps ça a duré que... Parce que la raison pour laquelle on peut dire pourquoi ils ne sont pas révoltés contre Paro au bout d'un moment, alors là, on a, là-dessus, on a aussi une réponse du Midrash. On a une question. Il y a une question classique. Quand Kadosh Baruch Hu a frappé l'Égypte avec Makat Bechorot, dans les psukim, il est dit qu'on a frappé les premiers-nés depuis le prince héritier jusqu'au Bechor de la femme qui tourne la meule. Il y avait une esclave qui tournait la meule. Et la question qui se pose, c'est ce pauvre type-là, ce pauvre Bechor, pourquoi lui, il meurt? On tue le prince héritier pour faire pression sur Paro, je comprends. Pourquoi on tue cela? Qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre? Alors, il y a un midrash pour expliquer ça. Sinon, c'est un scandale. Hein? Pour expliquer que ce n'est pas un scandale, le midrash explique que l'ensemble des esclaves, donc l'ensemble des sujets de Paro, lui ont dit, lui ont garanti la paix sociale, ils lui ont garanti qu'il n'y aurait pas de Spartacus, il n'y aurait pas de révolte des esclaves, à condition que les Hébreux soient en dessous d'eux. Si les Hébreux sont en dessous de nous, on ne bougera pas. Donc, ils sont tous complices. C'est comme ça qu'on peut expliquer pourquoi lui, tout le monde est complice. Ils étaient tous d'accord. Bon, on a la condition qu'on a, mais et on ne se révolte pas si les Bnei Israël sont en dessous de nous. Donc les Bnei Israël étaient vraiment, parce que les autres étaient les esclaves, mais les Bnei Israël étaient torturés.
Je me rappelle qu'ils étaient, donc comme vous dites, c'est que les sujets égyptiens étaient tout aussi esclaves sans torture et sans
ouais.
que les Hébreux.
Oui, c'est ça. Mais la différence, c'est qu'il y avait la torture. Voilà. Et d'une certaine manière, c'est un énorme précède. En vérité, Hachem aura donc envoyé les Bnei Israël pour être esclaves dans un pays où tout le monde était esclave. Donc, vous serez esclaves. On accomplit la promesse qui est, enfin, la promesse. C'est ce qui a été décidé avec Avraham Avinu. D'accord? Tes enfants, ils seront esclaves, etc. C'est marqué qu'ils vous feront un peu souffrir, mais le mot inouï, qui veut dire faire souffrir, c'est le même mot que celui qui est utilisé pour caractériser les cinq inouïm de Yom Kippour. Yom Kippour, pas manger, pas boire, etc. Ce n'est pas de la torture. Je veux dire, ce n'est peut-être pas une partie de plaisir, mais ce n'est pas une torture. Donc, ils auraient fait des trucs comme ça, ok, c'est bon. Mais bon, ils nous ont fait faire c'était une vraie torture. Et c'est pour ça qu'ils ont payé, parce que sinon, ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. Il n'y a pas de raison qu'on les fasse payer pour qu'on les punisse aussi gravement, parce qu'ils ont fait ce qu'Hachem. C'était le projet d'Hachem que mettre les Israël en esclavage. Mais eux, ils en ont rajouté. C'est pour cet ajout-là qu'ils payent. Donc, on a cette situation. Alors, il faut comprendre pourquoi, en fait, Yosef, il avait tous les pouvoirs. Donc, il aurait très bien pu, quand les gens n'avaient plus à manger, leur distribuer gratuitement à manger. Il y avait du blé, d'accord? Voilà, ce blé, il a été ramassé dans toute l'Égypte. Les autres, c'est pas que les autres n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ils ont aussi ramassé, ils ont aussi fait des provisions, les autres. Les gens qui avaient des champs, etc. Et tout a pourri. Ils n'ont pas réussi à les conserver suffisamment bien. Bon, Hachem a fait en sorte que ça pourrisse, quoi. Et donc, les seuls silos dans lesquels il y avait du grain, c'était les silos de Paro, gérés par Yosef. Ben alors, distribue. Pourquoi tu mets Paro dans cette situation où tout est à lui, là? Lui, tout ce qu'il voulait, c'était être une divinité au-dessus du Nil. Mais Yosef, il leur fait beaucoup plus. Yosef, il l'installe le maître complet de l'Égypte. Alors, on a déjà parlé de ça. La raison pour laquelle Yosef l'installe dans cette situation-là, c'est parce qu'il faut faire de Paro un interlocuteur pour HaKadosh Baruch Hu avec Moshe Rabbeinu. Il faut qu'on puisse dire à Paro, laisse partir les Bnei Israël, ils sont tous tes esclaves. Sinon, ils auraient été les esclaves les uns du duc machin, là, du comte truc, etc. Non, il n'y a pas, tout appartient à Paro, et donc avec une seule signature, ils sont libres. Donc, Paro est véritablement un interlocuteur valable pour toute la discussion. Donc, ça veut dire que, ben ça, on a bien compris, que toute la trajectoire de Yosef, tout ça, c'est quelque chose qui, il a sauvé l'Égypte, et plus, semble-t-il, c'est tout le, la région qui était sous la famine, tout le monde est venu manger en Égypte, d'accord? Donc, ça a fait du Paro une puissance extraordinaire, mais il a sauvé l'Égypte avec ça, en tout cas. Mais en réalité, tout ça, c'était pour installer, pour tout ça, c'est en vue de la sortie d'Égypte. Parce que ça, on l'a dit souvent, il faut comprendre que la descente en Égypte n'est pas un accident qu'il va falloir réparer avec la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte n'a pas pour but de réparer un événement malencontreux. Les Israéliens se sont retrouvés en Égypte, sous forme d'esclaves. Non. Ils ne sont descendus en Égypte que pour en sortir. L'important, c'est la sortie, et pour en sortir, il fallait qu'ils y soient. Donc, il va falloir expliquer pourquoi il était nécessaire d'en passer par un exil. Il fallait les faire. Donc, ils descendent en Égypte pour habiter parce qu'il y a une famine, et puis ensuite, ils s'en vont. Il suffit. Pourquoi il faut qu'ils soient esclaves en Égypte, finalement? Et justement, ils vont être en dessous des esclaves. Ce sont pas seulement des sous-hommes comme les esclaves probablement, mais des sous-esclaves. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus rien du tout.
Mais ce qu'on peut savoir maintenant, c'est que le fait de passer par l'Égypte ne va rien résoudre par rapport à la Gaza.
C'est ça. Mais là, c'est ma question.
Donc, en fait,
je ne comprends pas exactement.
Mais en fait, a l'impression que ma table de rat, que en fait, l'Égypte est une condition à la réception de ma table de rat, mais que ma table de rat est une réponse à la Vodazara.
Vous avez raison, ça peut se dire comme ça. On peut, si vous voulez, on peut comprendre le maillage de la Torah. 613 mitzvot qui sont bien plus que 613, puisque tout le travail de ceux qui ont mis en place les 613 mitzvot, c'est de savoir où il y a 613 cases, et il y a bien plus que 613 mitzvot, et il faut mettre les autres comme sous-mitzvot, comme dépendant de... Ça, c'est une tolda de cette mitzvah, ça, c'est une tolda, etc. Donc, il y a tout un travail. Bon, ça veut dire le maillage par la Torah de la vie quotidienne est extrêmement serré. Maintenant, si on comprend que la Torah, c'est la réponse à la Avodah Zarah, ça correspond à un maillage de la Avodah Zarah. La Vodazara, c'est entre partout, partout, partout. Et donc, il faut rien moins qu'un maillage aussi serré pour répondre, comme vous dites, à la Vodazara. Parce que la Vodazara touche tout. Et parce que, comme on l'a dit au début, on n'en a jamais fini avec. Et de même, il faut une Torah infinie pour répondre à l'infini de la Vodazara. Voilà, on va s'arrêter là.
Excusez-moi, juste pour m'éclairer, parce que là, je reviens juste sur Joseph, la fin de la paracha de la semaine dernière. Alors, il y a quelque chose qui m'interroge, parce que vous dites, OK, et c'est vrai, à la fin, toute l'Égypte est en esclavage. Mais c'est quand même curieux, parce que également... ses esclaves remercient Joseph. Ça, c'est le premier point. Pourquoi ils le remercient dans ces cas-là? Ils sont en esclavage.
Ils leur ont donné à manger. C'est entre la... Eux, ils ont choisi entre la mort et l'esclavage.
Et alors, ils remercient de les avoir mis en esclavage.
Ouais, non, ils remercient. Oui, c'est de nous avoir donné à manger.
Ouais,
c'est des conditions très difficiles, mais si tu ne nous donnes pas à manger, on est mort.
Ouais. Bon.
Et quand vous devez remercier celui qui vous donne à manger, même s'il vous donne des conditions drastiques, insupportables, mais vous survivez, quoi.
Et deuxième chose, j'ai toujours cru qu'ici, on avait affaire, alors même bien sûr la Torah ne nomme pas, donc on est quand même dans l'expectative, mais ce pharaon de Joseph, qui devient un potentat parce qu'il est propriétaire de toute l'Égypte, a priori, ce n'est pas celui qui vient dans la première, je crois, paracha de Shemot, et qui dit que voilà, il est arrivé un nouveau pharaon qui n'avait pas le même regard sur ces Hébreux-là. Donc, il y a quand même, a priori, 400 ans qui se sont passés.
Il y a une marque locale pour savoir si c'est le même paro. Mais quand on dit le même paro, n'oubliez pas que dans la vision de la Torah, les pharaons, ils n'ont pas de nom. Ils s'appellent pharaon. Tous s'appellent pharaon. D'accord, on sait, il y en a un qui s'appelle Toutankhamon, il y a les Ramsès, 1, 2, 3, je sais pas, etc. Mais dans la Torah, ils s'appellent tous Paro. Comme s'ils ont... Il n'y a pas de nom. Parce qu'il y a... Voilà, ils sont au-dessus de tout ça, ils n'ont pas de nom. Ils ont que le... Tu connais que leur titre. Ils ont un nom, sûrement, mais personne ne le connaît.
Donc, vous interprétez le Paro de la fin de la vie de Joseph comme étant le même type de paro que on va retrouver au début de Shemot.
C'est ça la discussion qu'il y a. Il y a deux opinions. Il y a une opinion qui dit que c'est le même, c'est-à-dire la même dynastie, et un autre, et donc il a voulu oublier Paro, oublier Yosef. Il veut pas être, il veut pas devoir quoi que ce soit à Yosef, donc il l'oublie. On détruit l'œuvre de Yosef, si ça se trouve, on a fait marteler toutes les traces de cunéiforme qui parlait de Yosef, comme il le faisait quand il changeait de dynastie. Ou bien, c'en est un autre, c'est une autre dynastie, parce que le Paro, il a perdu toute son armée, donc peut-être qu'il y a une autre dynastie, peut-être c'est les pharaons noirs qui viennent après, j'en sais rien. C'est pas. Peut-être c'est une autre dynastie qui aurait dû quand même connaître quand le pays a été sauvé de la famine par quelqu'un, même si on change de dynastie, ils en savent quand même quelque chose. Mais là, bon, ils ne se sentaient pas obligés, peut-être, d'une manière ou d'une autre, ils ne se sentaient pas obligés par rapport à Paro, parce que l'ingratitude des rois, c'est bien connu, des puissants, c'est très fini. Ils nous exploitent et puis après, ils nous jettent, inex, et avant l'heure. Donc, si vous voulez, c'est une marloquette, donc vous avez le choix. Mais de toute façon, il y a une volonté d'oublier Yosef, de plus tenir compte de Yosef, c'est-à-dire les privilèges des Hébreux cessent, doivent cesser, parce que sinon ça rappelle Yosef. Donc ça a commencé par leur enlever les privilèges, et petit à petit on leur a mis, sans qu'ils s'en aperçoivent d'après les Midrashim, quasiment par ruse, ils se sont fait piéger et réduire en esclavage. Pour accomplir la parole que Hachem avait donnée à Abraham Avinu. Voilà, on s'arrête là.